VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Abidjan, 17h à Libreville, bienvenue à notre journal. En Algérie, 9 islamistes armés tués ce mardi par les forces armées en Kabylie, région à l'est d'Alger. C'est ce qu'annonce le ministère algérien de la Défense en précisant qu'une opération antiterroriste continuait près de la localité d'Azéphone à 170 km à l'est de la capitale. Il y a 10 jours, l'armée algérienne avait affirmé avoir tué 14 islamistes lors d'une campagne de ratissage de la région de Bouira à 125 km au sud-est d'Alger. Depuis le début de l'année, les forces de sécurité multiplient les offensives dans les régions montagneuses à l'est de la capitale. Elles disent avoir déjà mis hors de combat 30 islamistes armés, y compris les djihadistes neutralisés aujourd'hui. Conflit en Libye, la Russie de plus en plus active dans le dossier libyen. Le chef du gouvernement d'Union nationale en Libye, Fayez al-Sarraj, sera à Moscou à partir de jeudi. Peu de détails sur cette visite, mais elle intervient quelques jours après une série d'initiatives diplomatiques engagées par les pays voisins de la Libye. Abdourahmane Dia.
Ces efforts diplomatiques visent à rapprocher Fayez al-Sarraj, le chef du gouvernement basé à Tripoli, et son rival, le maréchal Khalifa Haftar, basé dans l'est du pays, qu'il a d'ailleurs précédé à Moscou après avoir embarqué à bord d'un porte-avions russe au large de la Libye. M. Sarraj va tenter d'obtenir le soutien de la Russie à une révision de l'accord politique interlibyen conclu sous l'égide des Nations Unies en décembre 2015 au Maroc. Cette révision doit permettre de donner un plus grand rôle au maréchal Haftar en échange de son soutien au gouvernement d'Union nationale. Par ailleurs, la Compagnie nationale libyenne du pétrole a récemment signé un accord de coopération avec le géant russe Rosneft pour des investissements dans le secteur pétrolier en Libye. Une bonne partie des champs pétrolifères sont dans l'est du pays, sous le contrôle des hommes de Khalifa Haftar.
En Somalie, l'explosion d'une bombe artisanale posée dans une voiture a fait un mort à Mogadiscio ce mardi. Plusieurs autres personnes ont été blessées par la déflagration qui s'est produite dans le district de Waberi, situé au nord de l'aéroport de Mogadiscio. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais les attaques à la bombe et les assassinats dans le pays sont souvent le fait du groupe islamiste Al-Shabaab. Et toujours en Somalie, le nouveau président qualifie de catastrophe nationale la grave sécheresse qui ravage son pays et qui, selon les agences humanitaires, menace de famine quelques 3 millions de personnes. Dans un communiqué de la présidence ce mardi, Mohamed Abdoulaye Mohamed a exhorté la communauté internationale à réagir de façon urgente à cette situation pour prévenir une tragédie humanitaire. La veille, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, avait averti que la Somalie risquait de sombrer dans sa troisième famine en 25 ans. Le pays, ainsi que le Yémen et le Nigeria, sont les 3 États au bord de la famine, déjà officiellement déclarée au Soudan du Sud, où elle affecte 100 000 personnes. Burkina Faso, les attaques de 2 commissariats dans la nuit de lundi à mardi dans la province du Soum, dans le nord du pays, près de la frontière malienne, ont fait seulement une blessée et ont été revendiquées par le groupe qui avait tué 12 soldats dans le même secteur en décembre. Il n'y a pas eu de mort, une femme de policier a été blessée, a déclaré Mohamed Da, haut commissaire de la province du Soum, à propos des attaques menées par les djihadistes à moto dans les localités de Baraboulé et Tongomayel. Ces attaques ont lieu alors que le 25e Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, le FESPACO, est en cours dans la capitale burkinabé. La grande fête du cinéma africain attire depuis samedi jusqu'au 4 mars des dizaines de milliers de cinéphiles, dont de nombreux étrangers, à Ouagadougou, situé à 210 km au sud de Djibo, chef-lieu de la province du Soum. Et toujours concernant le Burkina Faso, des manœuvres militaires américaines au Burkinabé sont en cours depuis hier dans le pays. Le but de ces exercices, baptisés Flintlock, est d'améliorer les capacités opérationnelles des militaires pour contrer le terrorisme. Le point avec Bagassi Koura.
Le Burkina Faso participe depuis 10 ans aux manœuvres Flintlock. C'est la 2e fois après 2010 qu'il accueille cet exercice qui se tient également dans 6 autres pays, notamment au Tchad, au Cameroun, au Niger, en Mauritanie, au Maroc et en Tunisie. Cet exercice prévu pour durer 3 semaines est financé par les États-Unis. À Camboinsin, au nord de Ouagadougou, la formation militaire est dirigée par un détachement des forces spéciales américaines. À Bobo-Dioulasso, à l'ouest du pays, elle est assurée par des forces spéciales des Pays-Bas. L'état-major général précise que les participants, dont le nombre n'a pas été dévoilé, mèneront des exercices tactiques de petites unités pour inclure des parcours de tir, des mouvements motorisés ou à pied, des exercices de reconnaissance ou de combat rapproché. Le Burkina Faso est entré depuis avril 2015 dans un cycle d'enlèvements et d'attaques islamistes, surtout dans le nord frontalier du Mali et du Niger.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Relation entre la France et la RCA, l'ambassadeur de France à Prague, en République tchèque, Charles Malinas, a été rappelé ce mois-ci à Paris et un successeur nommé pour lui permettre de s'expliquer sur l'attribution irrégulière de visa alors qu'il était en poste à Bangui de 2013 à 2016. C'est ce qu'indique ce mardi le ministère français des Affaires étrangères. Il y a eu un problème de respect des critères pour la délivrance des visas. On a besoin de faire la clarté là-dessus, a déclaré à l'AFP un responsable du Quai d'Orsay s'exprimant sous couvert d'anonymat. Selon ce responsable du ministère français des Affaires étrangères, il ne s'agirait pas d'une affaire d'enrichissement personnel, mais de simple respect de la réglementation en matière de visa. En RDC, voisine de la RCA, à Kalmia Rutshuru, après une semaine de troubles dans ce territoire situé à 80 km au nord de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu dans l'est du pays. Des affrontements y ont opposé l'armée congolaise aux éléments de l'ex-mouvement rebelle du M23, le mouvement du 23 mars. Les précisions de notre correspondant Charlie Kasirika à Goma.
Duncan pense que le mouvement rebelle M23 avait retourné en RDC, y menait une nouvelle guerre et profitant de la situation politique actuelle en RDC. Stéphane Machukano est un acteur politique qui est ici au Nord Kivu, qui condamne cette nouvelle agression et présente sa crainte.
On aimerait à ce que le gouvernement éclaircisse ce point et qu'on n'entende plus jamais parler de ce mouvement M23 parce que nous savons qu'il a été vaincu. Finalement, qu'est-ce qui se cache derrière ce M23?
La crainte, c'est aussi les journalistes qui sont menacés. C'est samedi, le directeur de la radio Kivu 1, émettant depuis Goma, a reçu des menaces par un individu qui s'est présenté comme un officier M23, lui menaçant de porter atteinte à sa vie et celle de sa famille dans leur prochain assaut sur la ville de Goma.
Il m'a appelé, il m'a envoyé d'abord des SMS, des menaces qu'il prendra mon média, qu'il va prendre ma maison. On a parlé pendant 6 minutes et ça a été dur. Il a confirmé qu'ils vont prendre la ville de Goma dans un mois et que je serai la cible avec mon média. Mais bon, moi j'ai choisi ce métier, hein. C'est des métiers où on doit être très prudent. Pourtant, on a vraiment gardé toute la prudence, mais je m'inquiète pour les miens.
Sur les terrains à Rutshuru, actuellement, c'est un calme apparent après une semaine de troubles dans les collines et les vallées de ces territoires frontaliers avec le Rwanda et l'Ouganda. Il y a eu contact et échange de tirs, confirme l'officier Guillaume Djike, porte-parole militaire de Sokola 2, qui présente les premiers bilans.
Il y a eu des éléments extérieurs d'un 56 se sont rendus auprès. Et nous avons récupéré 8 armes sur l'ennemi. Le corps d'armée de la République démocratique du Congo ont tous les moyens matériels et humains pour marcher quiconque oserait mettre à mal la quiétude de notre population pour ça que notre population soit rassurée.
Pour les cadres du mouvement rebelle, les ex-combattants M23 qui voulaient retourner en RDC étaient non armés et n'avaient aucune intention de mener la guerre. Bertrand Bissimwa, président du mouvement M23, qui est aussi en exil en Ouganda.
Les informations que j'ai font état d'une offensive lancée par le gouvernement congolais contre des ex-combattants et ils sont rentrés pour aller se réinstaller dans leur pays, étant donné que le gouvernement congolais a refusé d'utiliser les moyens de retour qui étaient prévus par les déclarations de Nairobi.
Gilem Paluku, gouverneur du Nord Kivu, l'un des experts présents à Nairobi lors des discussions en 2013, précise que le gouvernement congolais n'avait jamais signé d'accord avec le mouvement rebelle M23 si ce n'était que des déclarations. Difficile actuellement de savoir avec certitude si après les affrontements de la semaine dernière, tous les éléments M23 auraient retourné en Ouganda d'où ils sont venus. Charlie Kasereka depuis Goma pour VOA Afrique.
Pour terminer, le président américain Donald Trump s'adresse ce soir à Washington aux deux chambres du Congrès, réunies en session conjointe chez Rubin Dorsil.
Ce sera son premier discours devant le Congrès réuni au grand complet Hier, le président Trump, lors d'une rencontre avec les gouverneurs, a affiché sa volonté de présenter un budget dit de sécurité nationale. La Maison-Blanche va proposer une hausse de 54 milliards de dollars pour la défense, qui serait compensée par une baisse des dépenses non militaires. La plupart des agences fédérales vont devoir subir une cure d'amaigrissement accompagnée d'une importante réduction de l'aide internationale.
Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique. Allez